France, Algérie, anatomie d'une déchirure.
Près de deux siècles après la conquête de l'Algérie par la France et 62 ans après la décolonisation, les relations entre la France et l'Algérie demeurent à vif, les mémoires tourmentées et instrumentalisées. Quelle est l'histoire des relations entre la France et l'Algérie? L'histoire d'une plaie impossible à cicatriser?
Thomas Negaroff.
Une série en 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec l'historien Benjamin Stora.
Épisode 5, 1962, la fin d'une histoire.
À la plus longue, à la plus meurtrière, à la plus bête des guerres coloniales, Évian vient de mettre fin de la manière la plus intelligente, la plus courageuse, la plus humaine, sur une promesse de réconciliation entre belligérants. Mohamed Masmoudi, homme politique et journaliste algérien, dans Jeune Afrique, le 19 mars 1962. On va revenir bien sûr sur ces propos et qu'ils ont mal vieilli, ces propos, sous forme de promesses et d'espoir, surtout en 1962. Mais on s'était arrêté dans l'épisode précédent à la bataille d'Alger. En 1957, les disparitions, la torture et le débat en France. J'aimerais qu'on aille en métropole à ce moment-là. On est en 1957, ça commence à se fracturer autour de la question algérienne. On a des Français qui se mobilisent pour les Algériens, les porteurs de valises. Dis-moi comment ce conflit s'invite en France, en métropole.
D'abord par un livre qui s'appelle « La question » d'Henri Allègre, qui va
sur la torture.
Contre la torture, qui va connaître un retentissement considérable. L'affaire Audin, du nom d'un mathématicien qui a été enlevé, torturé, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Donc ça crée une émotion considérable et une mobilisation intellectuelle qui est très très importante. En 1958, les appels se succèdent pour la venue au pouvoir du général de Gaulle. Il y a toute une série entre guillemets de complots qui s'organisent par les gaullistes qui font venir le général de Gaulle au pouvoir. Donc on n'a pas le temps de retracer toutes ces péripéties très compliquées.
Non mais racontons tout de même l'une des phrases les plus célèbres peut-être de la Ve République, même pas encore d'ailleurs. Je vous ai compris. Raconte-moi ce moment-là qui est un moment important de notre histoire commune française et algérienne.
Ben en fait, le général de Gaulle veut satisfaire tout le monde, parce que c'est un homme politique qui veut arriver au pouvoir. Donc il dit « je vous ai compris ». À qui ?
À qui parle-t-il ?
Aux Français d'Algérie, bien sûr.
Qui l'ont appelé au pouvoir ?
Qui l'ont voulu, ils l'ont installé au pouvoir.
Pour maintenir l'Algérie française ?
Croit-il,
oui.
À l'armée française, qui est très importante en Algérie, on l'a dit. C'est une armée très puissante, de près de 400 000 hommes, ça c'est colossal. Aux métropolitains qui aspirent à la paix, parce que le mouvement, on le sait par les sondages de l'IFOP qui existaient déjà à l'époque. On a consulté, les chercheurs savent déjà cela, on sait que la population française métropolitaine est majoritairement pour la paix. C'est-à-dire des négociations, finir, se séparer de toute cette histoire.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que la France est en guerre depuis 1939.
Ouais.
Elle a fait l'Indochine en 1946.
C'est pas par amour de l'Algérie ?
Non, c'est pas par anticolonialisme.
C'est fatigue de la guerre.
Par fatigue de la guerre et retour des boys, retour des conscrits. C'est ça, hein, fondamentalement, l'opinion publique métropolitaine. Donc c'est à tous ces gens-là que le général s'adresse. Et il dit, je vous ai compris. J'ai compris les pieds noirs, j'ai compris les soldats, j'ai compris les métropolitains, j'ai compris la gauche, j'ai compris la droite. Il comprend tout le monde. Et tout le monde est content.
Oui.
On a là la source de la séparation future de toutes ces communautés de mémoire qui vont progressivement se séparer. Mais il a une autre formule aussi. Vous savez, il avait le sens de la formule.
Ah oui.
Quand il dit, ce n'est pas à 67 ans que je vais commencer une carrière de dictateur.
Oui.
Mais en fait, le régime qu'il va installer est un régime très autoritaire, en fait. C'est le régime de la Ve République sur laquelle nous vivons toujours en France aujourd'hui et qui donne, par son article 16, les pleins pouvoirs au président de la République.
Mais revenons donc à l'année 58 et à l'incompréhension de ce « je vous ai compris » du général de Gaulle, puisque assez rapidement, les Français d'Algérie, attachés à l'Algérie française et l'armée, vont se rendre compte que le général de Gaulle est plutôt pragmatique et plutôt en phase avec l'opinion publique française que tu as décrite comme étant fatiguée par la guerre.
Oui, de Gaulle va comprendre très vite que l'intégration de l'Algérie à la France, c'est pas possible. C'est une utopie. Mais pour parvenir à des négociations, encore faut-il être en position de force. Donc il va lancer le plan Schall. Le plan Schall qui est terrifiant. Le plan Schall, c'est une sorte de rouleau compresseur dans l'année 59 pour écraser complètement tous les maquis algériens de l'intérieur. C'est ce qu'on va appeler le moment de largage du napalm à grande échelle sur l'Est constantinois. mais aussi la guerre des grottes, qui va connaître une expansion extraordinaire à cette époque-là, c'est-à-dire de l'utilisation de gaz chimique sur plusieurs centaines de coins, enfin d'endroits, de grottes, etc. Et là, on a effectivement la sensation que la guerre est gagnée sur le plan militaire, sur le terrain. Mais le général de Gaulle fait sa tournée des popotes, et en discutant avec un certain nombre de notables locaux, notamment musulmans, eh bien, il se rend compte que si peut-être la guerre est gagnée sur le plan militaire, elle ne l'est pas dans les cœurs. Elle ne l'est pas politiquement. Et donc, le 16 septembre 1959, il prononce un discours où, en fait, il dit pour la première fois qu'il y a la possibilité d'une autodétermination pour l'Algérie, ce qui met en fureur, bien sûr, les Européens d'Algérie, qui, quelques mois plus tard, vont mettre en place ce qu'on appelle les barricades contre le général de Gaulle. Et là commence l'antigaullisme mis en place par, les pieds noirs d'Algérie.
Je fais une petite note de bas de page. Hein. L'appel à l'autodétermination, c'est de dire les Algériens seront un jour appelés à décider eux-mêmes de leur sort, ce qui est d'ailleurs bien l'esprit de l'après-Seconde Guerre mondiale, avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On n'est pas dans quelque chose de délirant dans ce que propose le général de Gaulle à ce moment-là. Mais revenons aux barricades.
Oui.
C'est quoi les barricades concrètement? Que se passe-t-il dans les grandes villes algériennes? Et puis, le plan Chal que tu évoquais il y a un instant, on va le retrouver Chal, avec trois de ses copains, pour faire quelque chose qui va déplaire au général de Gaulle. Raconte-moi ça.
Ah, ça va déplaire beaucoup, parce que les barricades, c'est la constitution, disons, d'une minorité européenne politiquement très engagée pour la défense de l'Algérie française, qui donnera naissance un an plus tard à l'OAS.
L'organisation
de l'armée secrète. Et puis c'est aussi le début d'une réflexion à l'intérieur des gradés de l'armée sur un possible lâchage de l'Algérie française. Et donc l'idée va germer petit à petit dans un renversement du général de Gaulle, tout simplement. Ce qui aura lieu en avril 1961, ce qu'on appelle le putsch des généraux.
C'est là qu'on retrouve Chal.
Oui, on retrouve Chal, bien sûr. Chal qui était de loin d'ailleurs le plus politique. Hein. Chal, Zeller, Jouot et bien sûr Raoul Salan, qui vont essayer de renverser, le général de Gaulle. Ils n'y arriveront pas, grâce aux conscrits d'ailleurs, qui, en écoutant le transistor, écoutent l'appel du général de Gaulle et qui leur dit surtout, n'obéissez pas aux ordres de vos supérieurs, un petit peu comme en 1940.
Ouais, le Carteron. Le généraux en retraite.
Absolument. Qui, d'ailleurs, par parenthèse, n'était pas si Carteron que ça, parce qu'on s'est aperçu plus tard, enfin moi en tout cas dans mes recherches, qu'il y avait près de 800 officiers supérieurs qui étaient rentrés en dissidence et en mutinerie contre le général de Gaulle. C'était colossal. C'était une véritable fracture dans l'armée française. C'était pas n'importe quoi, ce putsch-là. Et de Gaulle en avait pris la mesure. Donc il a échappé de justesse. Et d'ailleurs, il avait très peur d'une chose, c'était que la bombe atomique qui avait été expérimentée pour la première fois dans le désert saharien en 1960, échappe au contrôle du pouvoir politique.
Ah oui.
Et ça, c'était très important au moment du putsch d'avril 61. Il y avait déjà eu des expériences nucléaires qui avaient eu lieu. Et donc là, le général de Gaulle, s'est dit, attention, on risque, de perdre la main sur l'usage de l'arme nucléaire. C'est pas n'importe quoi. Et puis, en même temps, il y a le fait que dans ce putsch, c'est les tentatives de négociation avec le GPRA,
gouvernement provisoire de la République algérienne,
qui s'est constitué à partir de 1958 à Tunis sous la direction de Ferhat Abbas, qui est passé de l'assimilation à l'égalité, à de l'autonomie, à l'indépendance. Vous voyez le cheminement de Ferhat Abbas, et qui par conséquent entrave la possibilité de négociation. Et donc la création de l'OAS, le putsch des généraux, va créer ce qu'on pourrait appeler presque une guerre civile franco-française. C'est-à-dire qu'à la guerre classique algéro-française va succéder, une guerre franco-française.
Mais pas en Algérie, en métropole.
En métropole, principalement, mais aussi en Algérie. Il va y avoir des commandos, ce qu'on appelle les barbouzes, des commandos gaullistes qui vont s'affronter aux commandos de l'OAS. Ça va faire beaucoup de morts. Et donc, il y a cette double guerre civile qui menace, effectivement.
Et restons en métropole un instant. Comment intégrer dans ce raisonnement-là, dans ce moment-là, les événements graves qui vont frapper les Algériens de France? Peut-être tu peux nous en dire un mot.
À ce moment-là, effectivement, le général de Gaulle veut arriver encore une fois en position de force. C'est un politique, de Gaulle, dans les négociations avec le FLN. Donc, il veut qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public. Et donc, le 17 octobre 1961, lorsque la Fédération de France du FLN décide de l'organisation d'une manifestation pacifique de travailleurs algériens qui devaient sortir des bidonvilles pour aller converger vers le centre de Paris, les bidonvilles d'Asnières, Gennevilliers, Nanterre, etc., eh bien, ils sont stoppés sur les ponts. Et la répression sera terrible. Cette nuit terrible du 17 octobre 61, qui fera plusieurs dizaines de morts. Bon, il y a des discussions sur le nombre
oui,
de morts.
J'ai même lu des milliers de morts.
Non, il n'y a pas eu des milliers de morts. Il y a au bas mot entre 150 et 200 morts.
Ouais.
Mais il y a eu effectivement des milliers d'arrestations, par contre, ça. Hein.
Parce que je crois, mais peut-être tu vas me corriger, qu'il y avait un couvre-feu oui. uniquement pour ces populations-là.
Tout à fait. Le communiqué de Maurice Papon, qui était préfet
oui,
de police.
Oui, n'oublions pas que c'était Maurice Papon, l'ancien préfet de la Gironde pendant la Seconde Guerre mondiale, Vichy.
C'est le même, effectivement, qui sort un communiqué le 5 octobre 1961, et où, pour la première fois dans un communiqué officiel de l'État, apparaît le mot de « Algérien ». C'est-à-dire, il est interdit aux Algériens, jusqu'à présent, ça n'existait pas. Les Algériens, c'était les Nord-Africains, les Maghrébins, enfin, il y a toutes sortes de qualifications juridiques. Mais là, c'est la première fois, le 5 octobre 61, dans un communiqué officiel, on dit, les Algériens n'ont pas le droit de sortir après 20 heures.
Ça fait penser à ce qu'on se racontait sur l'expo coloniale. Oui. Quand il y avait l'Algérie à l'expo coloniale, sachant que c'était pas une colonie. Là, c'est pareil. Théoriquement, l'Algérie n'est pas indépendante, mais il y a des Algériens. Alors, normalement, il n'y a pas d'Algériens. Il n'y a que des Français. Ce oui. moment-là, oui. le putsch des généraux oui. va accélérer la sortie de la guerre. En quelques dates, quelles sont les dates qu'on doit connaître, si on veut, en sortant de ce podcast, de cet épisode, connaître les jalons de la fin de la guerre d'Algérie? Parce que, j'avoue que, en regardant, je ne sais pas quand elle finit, la guerre d'Algérie.
Non, elle finit
pas. Il
y a trois
vraiment. Dates différentes. On ne sait pas si c'est juillet, si c'est mars. Ça raconte quelque chose, quand même, ça, non?
Bien sûr. La guerre d'Algérie n'est pas finie. Contrairement au film célèbre, La guerre est finie. Effectivement, il y a plusieurs dates et toujours des controverses. Mais retenons quelques dates. D'abord, bien sûr, le 19 mars, les accords d'Évian. C'est-à-dire qu'officiellement, effectivement, Krim Belkacem du côté algérien et Louis Jox du côté français signent un accord prévoyant le passage à l'indépendance par le biais du scrutin d'autodétermination qui est fixé
le
3 juillet 1962. Donc ça, c'est une première date. 19 mars. Mais il y a une seconde date, c'est le 26 mars. Parce que ce jour-là, il y a une manifestation d'Européens d'Algérie qui sont favorables à l'Algérie française, qui sont contre les accords d'Évian, et l'armée française ouvre le feu.
Sur des Français.
Sur des Français. Et il y aura, au bas mot, une soixantaine de morts, 150 blessés par balle.
Des familles.
Avec, ça a été filmé.
Et des familles.
Des familles, absolument.
Ouais, ce ne sont pas des soldats qui sont.
Non, qui sont tués. Et vous savez, cet épisode a été filmé, très célèbre. Vous savez, c'est quand on entend la voix de la personne qui dit halte au feu, mon lieutenant, halte au feu. Je pense que vous avez dû entendre ça dans les différents documentaires qui existent sur la guerre d'Algérie. C'est donc la manifestation du 26 mars 1962 qui est très importante. Et puis, il y a le congrès de Tripoli du FLN à la fin du mois de mai, vers le 29-30 mai, 1er juin 1962, où les dirigeants commencent à se disputer parce qu'ils sentent que le pouvoir approche, bien sûr. Et là, il y a des fractures sur lesquels il s'est trop long de s'étendre, entre différents dirigeants du GPRA et du FLN qui se séparent, se structurent dans des oppositions différentes, grosso modo entre les partisans des maquis de l'intérieur, les partisans de l'armée des frontières. Déjà, au congrès de Tripoli, on sent poindre les luttes de pouvoir. Donc ça, c'est important, le congrès de Tripoli. Et puis enfin, il y a, bien entendu, le scrutin d'autodétermination et le massacre des harkis et des enlèvements d'Européens à Oran. Donc le scrutin.
Donc le 3 juillet.
Le 3 juillet, c'est l'autodétermination proclamée officiellement.
Okay.
Et le 5 juillet, il y a à Oran des enlèvements d'Européens par des Algériens qui échappent au contrôle de l'ALN, mais qui sont quand même à l'ALN. Enfin bon, c'est, l'Algérie est plongée à cette époque-là, à l'été 62, dans un grand chaos quand même, mais à la fois militaire, politique et organisationnel. Et le massacre aussi de troupes supplétives musulmanes fidèles à la France, qui n'ont pas pu embarquer avec leurs officiers, car il y a des officiers qui ont voulu sauver leur harka, c'est-à-dire les troupes supplétives, ont embarqué environ entre 60 et 80 000 harkis ont été embarqués par leurs propres officiers, et en contradiction avec des ordres qui étaient venus de France, qui étaient de ne pas embarquer.
Pourquoi ? C'est un point important quand même, sensible de la mémoire, notamment harkis. Est-ce qu'il y a eu une trahison de la France envers ces harkis, qui étaient, je le répète, des musulmans qui combattaient auprès de l'armée française, souvent par principe d'ailleurs.
C'était des combattants qui étaient aussi dans des commandos extrêmement importants.
Oui.
On connaît le commando Georges, par exemple, qui était très important.
Et la France n'a pas été à la hauteur, c'est ça ?
Je pense, oui, que la France n'a pas été à la hauteur. Il y a une forme d'abandon qu'on avait déjà connue en Indochine aussi, avec l'abandon des forces supplétives. Et d'ailleurs, un certain nombre d'officiers français qui avaient fait l'Indochine ne voulaient pas que recommence cette expérience tragique. C'est pour ça qu'ils ont contrevenu aux ordres
et embarqué
avec eux les femmes, les enfants, vers la métropole.
Et combien de Harkis sont restés et ont été massacrés ?
Alors, ça, c'est des chiffres. Alors, vous savez, les chiffres de la guerre d'Algérie, ils sont sujets à caution, à discussion éternelle entre tous les historiens. Sur les Harkis, Charles-Robert Ajon, je crois, avait avancé le chiffre de 20 000 morts. Bon, les Harkis, dans certaines communautés d'associations, parlent d'un chiffre beaucoup plus élevé, qui tourne à 50 000, 80 000 morts, etc. Et du côté algérien, parce qu'il faut aussi parler du côté algérien, on en est au bilan des chiffres. De mon point de vue, je pense qu'il y a eu 400 000 morts du côté algérien dans la guerre d'Algérie, au bas mot. Donc c'est quand même colossal, c'est le chiffre supérieur au nombre de Français tués pendant la Première Guerre mondiale dans un rapport à la population.
J'avais commencé avec un extrait d'un homme politique et journaliste algérien qui le 19 mars 62, donc au moment d'Évian, déclarait qu'il y avait une promesse de réconciliation entre belligérants. Je te vois lever les yeux au ciel, ça n'a pas pu être possible, pourquoi en quelques mots ?
Ça n'a pas pu être possible à cause de l'amnésie, du déni de réalité de ce qu'a été l'histoire coloniale pendant 132 ans en France. On parlait déjà de la conquête qui avait été effacée et dissimulée, cette conquête qui avait duré un demi-siècle et qui a disparu des consciences. Eh bien, il a fallu aussi très vite faire disparaître la guerre d'indépendance algérienne. Il a fallu la faire disparaître. Il fallait oublier pour vivre. Parce qu'on avait perdu une partie du territoire national. Il y avait l'orgueil national blessé du nationalisme français. L'Algérie, c'était la France. Et donc ça, il fallait l'oublier, on ne peut pas le commémorer, c'est pas possible, c'est impensable, c'est impossible. Et donc, il y a cette volonté d'oubli. Mais du côté algérien, il y a au contraire la surcommémoration. C'est-à-dire que c'est la sensation d'une victoire remportée sur le colonisateur qui va légitimer l'existence des pouvoirs politiques qui vont se succéder pendant près de 60 ans.
Et ce sera l'objet du prochain épisode sur ces mémoires entravées, ces mémoires qui s'affrontent, ces mémoires en concurrence, même si elles sont aussi en partage. Ça sera donc l'objet de notre prochain épisode. France-Algérie, Anatomie d'une déchirure est un podcast original de France Inter.